Des lettres sortent d'un fond blanc et deviennent rouges. Netflix. Dans la nuit étoilée de l'espace, des lettres argentées en 3D défilent autour de la Terre. Des lettres lumineuses se fixent au centre de l'image, Universal. Sur un fond noir, le logo de Y Productions s'inscrit en rouge. Écrit en lettres blanches, Netflix présente. Un film original Netflix. Paris apparaît sous la grisaille. Les lignes floues de la tour Eiffel se dessinent à l'arrière-plan. Un immeuble de bureaux noirs domine les bâtisses anciennes et modernes. Au loin, la ville disparaît dans la brume. Y Productions présente. En coproduction avec France 2 Cinéma, Nexus Factory et U-Media, en association avec Ufuno et Universal Pictures Video. Dans une rue déserte de banlieue, l'enseigne d'un garage s'inscrit au fronton d'une maison délabrée. Avec la participation de France Télévisions, de Canal+, et de Ciné+. À l'intérieur, c'est un vaste hangar au mur de pierre. Une verrière éclaire en partie les lieux. Un homme brun et mince, moustachu, barbe rase, la trentaine, est agenouillé devant une moto. Cigarette aux lèvres, tournevis en main, il travaille sur le moteur. En association avec Cofina 12, Cofina 13, Un des films et Cofimage 27. Romain Duris, Charlotte Lebon, Jalil Lesper, Camille Cotin, dans Iris. Le titre s'affiche en lettres rouges. Scénario, Andrew Bommel. Adaptation et dialogue, Jalil Lesper et Jérémy Guerre. La pluie s'infiltre par la structure percée de la verrière et s'écoule à grosses gouttes dans le hangar. Un film de Jalil Lesper. Dans un restaurant de standing, un homme brun, barbu, la quarantaine, déjeune avec une jeune femme au visage fin et aux cheveux longs et bruns. L'homme lui caresse la main. Elle le fixe de ses grands yeux bruns. Des colonnes sculptées soulignent la hauteur du plafond et ponctuent les rangées de tables. Un serveur traverse la salle tout en longueur et sert un café au couple.
Merci.
Le serveur repart. L'homme barbu en costume cravate de belle facture sourit et lève les yeux sur sa compagne.
Je t'aime, Iris.
Elle esquisse un sourire.
Moi aussi.
Peu après, Iris est en manteau. Son compagnon tend sa carte au maître d'hôtel.
Merci, monsieur.
Je t'attends dehors.
Il fait un petit signe de la main à Iris.
Vas-y. On sait bien pas ça.
Très bien.
Il compose son code. Dehors, un sac de marque au bras, Iris ouvre son parapluie et s'allume une cigarette. Un embouteillage bloque la rue. À l'intérieur, le maître d'hôtel tend une facture à l'homme barbu.
Merci beaucoup, monsieur.
Iris aspire une bouffée de cigarette. À l'intérieur, son compagnon s'avance vers le vestiaire.
Merci.
L'employé lui présente son pardessus et lui tend un billet.
Merci.
Merci.
Bonne journée.
Un client sort du restaurant. Iris n'est plus là. Son compagnon sort. Il descend les marches du perron et jette un coup d'œil à la rue. Un homme grimpe les marches.
Excusez-moi, vous n'avez pas vu passer une femme ?
Une femme.
Grande, brune, très jolie.
Non, désolé, monsieur, j'ai vu personne.
Merci.
L'homme barbu rentre dans le restaurant et traverse le hall en regardant autour de lui. Il s'approche du maître d'hôtel.
Excusez-moi, monsieur, ma femme n'est pas repassée.
Votre femme? Mais elle n'est pas censée vous attendre dehors.
Vous pouvez vérifier qu'elle n'est pas aux toilettes?
Je veux bien, mais en même temps, si elle était passée, j'aurais vu.
Je vérifie quand même.
Je vais voir tout de suite.
Merci.
Le maître d'hôtel s'éloigne. L'homme barbu sort son téléphone.
Iris, c'est moi, je suis au restaurant là, je sais pas où tu es.
Il quitte le restaurant, boutonne son pare-dessus noir et on remonte le col. Au garage. Le mécano tourne la tête vers la porte et pose son outil. Il pose sa cigarette et s'avance lentement vers la porte. C'est Iris, habillée d'un manteau différent.
Entrez.
Le mécano jette un coup d'œil à l'extérieur. Il se tourne vers Iris.
Voilà.
Elle le précède. Il traverse le hangar.
J'ai changé de vêtements. Au cas où on me verrait ici.
Elle monte un escalier. Il la suit des yeux avant de lui emboîter le pas. Ils atteignent une mezzanine. Ils dégagent des affaires d'un lit.
C'est vous ?
Elle est trempée. Il ouvre une armoire et en sort une serviette. Elle lui tend une enveloppe.
10 000 comme prévu.
Il l'ouvre et vérifie le contenu.
Et si jamais il y a un truc qu'il faut ?
C'est impossible.
Elle le regarde droit dans les yeux. Il détourne la tête. L'homme barbu sort d'un ascenseur et entre dans les bureaux d'une société. Une femme, la quarantaine, lui sourit et le débarrasse de son pardessus.
Votre rendez-vous de 15h30 est en retard. J'ai posé les contrats à signer sur votre bureau.
Est-ce que ma femme a appelé ?
Non, mais vous ne deviez pas déjeuner avec elle ?
Il entre dans un bureau sans un regard pour elle. Dans un immeuble ancien accolé au parc Monceau, Iris et le mécano entrent dans un appartement. Iris entre dans le salon. Le mécano traverse la vaste entrée au parquet ancien et la rejoint. La jeune femme retire ses chaussures, puis déboutonne son chemisier. Il s'avance vers une fenêtre et enferme les rideaux sombres. Il jette un coup d'œil à la pièce et pousse un fauteuil. Iris est en soutien-gorge. Elle retire son pantalon. Il ferme les rideaux d'une autre fenêtre. Il se tourne vers Iris. Elle enfile jusqu'à la taille une petite robe noire sortie du sac de marque. Elle se redresse, dévisage froidement le mécano et s'avance dans le salon. À son bureau, l'homme barbu se tient debout. Il sort son portable de sa poche et s'approche d'une porte-fenêtre. La pièce luxueusement aménagée est en rotonde. Les traits figés, le regard sombre, il observe l'extérieur. Dans l'appartement, Iris présente une corde au mécano. Elle s'assoit sur une chaise placée au centre de la pièce. Il dénoue la corde et lie les chevilles de la jeune femme au pied de la chaise. Il enroule le lien autour de ses bras et du dossier. Il fait un nœud, passe la corde sous la chaise et lui attache les poignets.
Vous pouvez serrer plus fort.
Il la dévisage et resserre le lien. Elle soutient son regard.
Vous êtes sûr de vouloir continuer ? S'arrêter là.
C'est trop tard.
Il lâche ses poignets et attrape un rouleau de ruban adhésif sur le sol. Il colle sans ménagement un morceau d'adhésif sur sa bouche. Il sort son téléphone, tout en ne la quittant pas des yeux. Il regarde Iris avec attention, puis la décoiffe. Il la prend en photo. Il lui lisse une mèche et reprend une photo. Elle a les larmes aux yeux. Il compose un numéro. Dans une salle de réunion.
Et sur l'accord FATCA, on en est où au niveau des échanges ?
Alors aujourd'hui, on tape sur un risque de perte de 5,2% des investissements aux États-Unis.
L'assistante entre et dit un mot à l'oreille de l'homme barbu. Il se lève et suit l'assistante à l'extérieur de la salle. Une douzaine d'employés assis autour de la table regardent des diapositives projetées sur un écran. Dans le bureau de l'homme barbu.
C'est quelqu'un de l'assurance qui dit que c'est urgent.
Elle lui tend un téléphone.
Allô ? Allô ? Qui est-ce ?
L'homme qui est ta femme.
Le mécano arrache l'adhésif d'Iris.
Iris.
Antoine. Antoine, je rentrerai à la maison.
Iris.
Je rentrerai à la maison.
Tu comprends la situation, Antoine.
Qu'est-ce que vous voulez?
De l'argent.
Combien?
Qu'est-ce qu'elle vaut pour toi?
Je paierai tout ce que vous voulez, seulement vous ne la touchez pas.
Je la touche en ce moment, Antoine. Je vais glisser ma main entre ses jambes.
Iris se laisse caresser.
Je vous en supplie.
Tu sais ce que je touche, là, Antoine ?
Arrêtez, ne faites pas ça !
Qu'est-ce que je touche ?
Arrêtez !
Le mécano sort un papier de sa poche.
Tu veux revoir ta femme ? Tu vas faire exactement ce que je te dis.
Il lit.
Je veux 500 000 euros. En billets usagés. Si t'appelles la police, je la tue. Si tu préviens quelqu'un, je la tue. T'as compris ?
Le mécano coupe la communication. Antoine regarde l'écran de son téléphone.
Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur ?
On a enlevé ma femme.
Dans l'appartement.
Faut que j'y aille. Détachez-vous sans moi. Regardez.
Mais vous vous foutez de moi ?
Vous pouvez défaire les nœuds avec les dents. Comme ça, allez-y.
Il s'en va. Un autre appartement, dans une chambre. Un homme brun émerge du sommeil. Il se redresse, regarde sa compagne endormie et laisse retomber sa tête. Il s'assoit au bord du lit. Il se lève et attrape son téléphone sur une table. Il est nu.
Allô ? Ouais, je sais, on a fini tard. Ok, j'arrive. Comment ça, elle répond pas ? T'es sûr ? Ouais, je vais l'appeler.
La jeune femme se réveille. Elle est brune, les cheveux longs. Le couple a la quarantaine. L'homme se rallonge et dépose un baiser sur son dos.
Faut qu'on y aille.
Ok. Qu'est-ce qu'on a ?
Enlèvement.
La nuit est tombée sur la capitale. Des voitures circulent entre des tours éclairées. La tour Eiffel balaie la ville de son faisceau lumineux. Le mécano et un petit garçon brun aux cheveux bouclés, 10 ans, traversent la place de la République d'un pas pressé. Le garçon lève les yeux vers le mécano.
Viens.
Ils entrent dans un restaurant. Une jeune femme brune prépare les tables. Elle se plante devant eux.
T'étais où ? J'ai eu un coup de fil de l'école pour me dire que t'étais pas là.
Ouais, j'ai été retardé par le boulot.
Tu as faim, mon chéri ?
Oui.
Viens avec moi. Va dans la cuisine. Merci, Laura.
La jeune femme brune, la trentaine, fusille le mécano du regard.
Pourquoi tu m'as pas dit que tu pouvais pas être là?
Je t'ai dit, j'ai juste été retardé.
T'as contacté la banque?
Ouais. C'est bon, je m'en occupe.
Ah ouais, j'ai déjà entendu ça.
Elle passe devant lui, se rend en cuisine et dépose un baiser sur la tête du petit garçon. Le mécano longe les cuisines ouvertes.
Comment ça va, Max?
Comme d'habitude.
Max quitte le restaurant et s'engage d'un pas vif sur la chaussée d'une rue commerçante. À son bureau, Antoine, assis menton en appui sur ses mains, imagine Iris prisonnière. La jeune femme bâillonnée tente en vain de défaire ses liens. Iris rejette la tête en arrière et frotte ses chevilles contre un barreau de la chaise. Elle se redresse, les yeux emplis de larmes. Antoine a le regard fixe. Iris essaie encore de se libérer. L'assistante d'Antoine ouvre la porte du bureau. Il se lève.
C'est Doriot.
Le couple de policiers entre.
Madame.
Bonjour, monsieur.
Monsieur.
Il s'assoit dans un coin du salon.
Est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment ça s'est passé au restaurant?
On venait de finir de déjeuner. J'étais en train de régler l'addition. Et ma femme m'a dit qu'elle m'attendait dehors.
Et c'est écoulé combien de temps? Une minute, deux?
Oui, quelque chose comme ça. Trois, maximum. Pas plus.
Et vous l'avez cherchée ensuite?
Oui. Je suis retourné à l'intérieur du restaurant pour vérifier, mais elle n'était plus là. Elle m'avait dit qu'elle irait faire du shopping dans l'après-midi. Je me suis dit qu'elle était peut-être partie sans me prévenir, qu'elle me rappellerait plus tard pour me tenir au courant. Puis j'avais un rendez-vous. Je suis désolé, je ne sais pas quoi dire d'autre.
Nous comprenons, monsieur. Mais il est important que vous essayiez de nous dire tout ce dont vous vous rappelez.
Oui.
Même ce qui vous paraît sans importance.
À quelle heure le kidnappeur vous a-t-il contacté?
Je sais plus exactement, mais ma secrétaire doit savoir, c'est elle qui m'a transmis l'appel.
Celui qui vous a appelé, c'était un homme, n'est-ce pas?
Oui.
Est-ce que vous auriez remarqué quelque chose à propos de sa voix?
Comment ça?
Un accent, quelque chose.
Non, rien de particulier. Pourquoi?
Il est possible que vous le connaissiez. Ça peut être un employé de la banque, quelqu'un qui vous en veut. Un client mécontent. Nous allons avoir besoin d'une liste avec le nom des associés avec lesquels vous avez eu des conflits. Et ceux qui ont des problèmes avec votre banque. À ce stade, notre priorité est qu'il n'arrive rien à votre épouse. J'ai cru comprendre qu'on vous avait demandé une rançon.
500 000 euros.
Vous êtes prêt à payer?
Oui, bien sûr.
Dans ce cas, je vais vous demander de prendre les dispositions nécessaires et de bien vouloir rentrer chez vous. Il est possible qu'il surveille votre immeuble, donc il faut donner l'illusion que vous êtes seul. Nous, on ne sera pas loin.
Antoine est en voiture.
On va vous mettre sous surveillance.
Et lorsqu'il appellera, gardez-le en ligne le plus longtemps possible. Dites-lui que vous cherchez un stylo pour noter ses instructions. Faites-le répéter, mais gardez-le en ligne.
Il sort d'un ascenseur.
Et s'il appelle pas?
Faites-nous confiance, monsieur Doriot. Il vous appellera.
Il entre dans un appartement et monte un escalier. Il débouche dans un séjour luxueux aux lignes épurées et s'immobilise. Il tient une sacoche dans la main. Dehors, dans leur voiture, les deux policiers surveillent les alentours.
Tu sais, par rapport à ton mec, on n'est pas obligé de...
Écoute, on a picolé, on est rentrés ensemble. C'était bien, on en avait tous les deux envie. Voilà, c'est tout. Fin de l'histoire.
Le policier acquiesce morose. Dans son salon, Antoine consulte sa montre. Il s'est assis sur une table basse. Il se lève, s'approche des baies vitrées et ouvre une porte-fenêtre. Il sort sur le balcon, prend une longue inspiration, puis contemple la scène au bas de son immeuble. Il sort son téléphone. Sur l'écran s'affiche une photo d'Iris bâillonnée. Dans la voiture, les policiers écoutent.
Si vous acceptez l'appel, tapez 1.
Gare du Nord, t'amènes l'argent et t'attends sur le quai 15. Direction Persan-Beaumont, le train de 21h54.
Le policier hoche la tête et passe un appel. Dans l'appartement, Antoine examine la photo d'Iris. Dans la voiture. Antoine décroche.
Vous avez entendu ?
On l'a enregistré. Vous voulez le faire ?
J'ai pas le choix.
D'accord.
Gare du Nord.
Il y aura des agents de la BRI avec vous dans la gare. Quand vous le verrez, donnez-lui l'argent. Mais surtout, ne montez pas dans ce train.
Sacoche en main, Antoine se dirige vers un quai. Les policiers le surveillent depuis une coursive à l'étage.
Il se dirige vers la voie 15.
Le policier descend. Antoine arrive sur le quai. Un homme de la BRI lui emboîte le pas et parle dans son micro-cravate. La policière les suit des yeux depuis la coursive. Le policier rejoint la voie. Antoine remonte le quai. Il ralentit le pas et cherche son interlocuteur du regard. L'homme de la BRI, barbu, la trentaine, s'immobilise à quelques mètres de lui. Le policier ralentit le pas sans quitter Antoine du regard. Antoine s'arrête devant la porte ouverte d'un wagon. Le policier s'immobilise à son tour. Les passagers, nombreux, vont et viennent. Max apparaît, main dans les poches de sa veste en cuir. Il s'engage sur le quai, aux aguets. Antoine tourne la tête dans sa direction. Le banquier regarde à gauche et à droite. Max l'identifie et se fige. Il ralentit le pas et baisse les yeux sur la sacoche d'Antoine. Max passe derrière lui et s'immobilise. Sur la coursive, la policière retient son souffle. Max, défait, monte dans le train. Les deux policiers sur le quai ne l'ont pas repéré. Antoine, désemparé, baisse les yeux. Max prend place sur un siège et l'observe à travers la vitre. Les derniers passagers montent dans le train. Le quai se vide. Sur la coursive, la policière.
Ne monte pas dans le train.
Antoine s'avance. Les portes se ferment. Max panique. Mais Antoine renonce à monter. La policière respire. Max observe Antoine. Le train s'éloigne lentement. Max, le souffle court, se renfonce dans son siège. En voiture, Antoine est assis à l'arrière à côté du policier.
J'aurais jamais dû vous écouter, vous voulez sûrement que je monte dans le train.
Vous pouvez pas garantir votre sécurité.
Et la sécurité de ma femme?
Il y avait peu de chances qu'ils viennent au rendez-vous. L'ensemble de la gare est sous vidéosurveillance. C'était sans doute un test, il voulait voir si vous étiez prêt à traiter avec lui ou alors si vous aviez prévenu la police. Ou alors il fait pas ça pour l'argent. Peut-être qu'il veut juste jouer avec vous. Vous devriez réfléchir à qui pourrait vouloir vous faire une chose pareille.
Pour l'instant, on va vérifier les enregistrements vidéo. Et vous, rentrez chez vous. Il se pourrait qu'il vous recontacte ce soir.
Vous allez devoir rentrer tout seul. Peut-être qu'il surveille votre immeuble.
Max entre dans l'appartement d'Iris. Il s'arrête à l'entrée d'une pièce. Allongé sur un lit, Iris lui tourne le dos.
J'ai pas l'argent. Pas senti.
Il s'approche.
J'ai foiré.
Il l'observe. Iris ne réagit pas. Il s'assoit au bord du lit, puis se tourne de nouveau vers elle. Il la contemple avec une inquiétude soudaine.
Madame.
Il pose une main sur son bras, la retire avec effroi. Il se lève dans un sursaut.
Oui !
Il enveloppe Iris dans une couverture et sort dans l'entrée.
Police, ouvrez !
Il se précipite dans la chambre.
J'arrive !
Monsieur Lopez !
Oui !
Il cache le corps sous le lit. Il retire sa veste.
Oui !
Ouvrez, monsieur, s'il vous plaît.
Ouais.
Trois policiers.
Il vous a signalé une altercation, on peut entrer ?
Une altercation ? Comment ça ?
Pourquoi vous n'avez pas répondu à la porte ?
Je dormais.
Il vous a signalé des cris de femme ici ?
Ouais, c'est ma femme. On s'est engueulé.
Où elle est ?
Je sais rien, elle est partie. Elle reviendra quand elle sera calmée, elle est toujours comme ça. Attendez, vous avez le droit de fouiller comme ça chez les gens ?
Vous savez pas où elle a pu aller ?
Non.
Vous avez une pièce d'identité sur vous ?
Il sort ses papiers.
Oui.
Le policier vérifie sa carte.
Vous n'avez pas déclaré la bonne adresse, monsieur.
Non, ça c'est mon ancienne adresse.
Il faut la modifier.
Ouais, je vais le faire. Comment vous avez mon nom ?
Et votre femme, comment elle s'appelle ?
Nina Corsini.
Pourquoi vous êtes disputée ?
Je suis rentré tard hier soir, elle s'est énervée contre moi. Mais ça se reproduira plus.
Ouais. C'est bon, t'as tout ce qu'il faut ?
Ouais, ouais.
Essayez de faire moins de bruit la prochaine fois, vous avez fait peur aux voisins.
Max les raccompagne.
Bonne soirée, monsieur.
Bonne soirée.
Il écoute derrière la porte. Max se souvient. Il se revoit avec Iris dans une rue. La jeune femme fume une cigarette pendant qu'il change la roue de sa voiture. Il dépose la roue dans sa camionnette garée à quelques mètres. Iris teste l'état de la nouvelle roue du bout de son escarpin noir, puis lève les yeux sur Max. Dans l'appartement, Max traîne le corps enroulé dans une couverture. Il le hisse sur son épaule. En voiture, il roule dans la nuit sur une autoroute et se souvient. Il est avec Iris dans l'appartement.
Vous ne devriez pas laisser votre voiture comme ça dans la rue. Vous n'avez pas de parking dans le coin ?
C'est pas ma voiture, c'est celle d'une amie. Elle est en voyage, je lui garde l'appartement.
Max jette un coup d'œil au lieu. De grandes toiles sont posées contre les murs du salon cossu. Iris s'approche, sort un billet de son sac et le lui glisse dans la main. En voiture, il traverse un tunnel. Dans le passé.
Écoutez, mademoiselle, moi, je répare les voitures, moi, c'est tout.
Le visage d'Iris est très proche du sien.
Je sais.
Elle le fixe. Il se détourne, gêné.
Quoi ?
Elle approche ses lèvres des siennes.
Qu'est-ce qu'il y a ? Dites-moi.
Il s'écarte. Elle secoue légèrement la tête. Elle prend une cigarette sur la table basse, se redresse et dévisage Max. Elle jette le paquet sur la table.
Vous allez me prendre pour une folle, mais... j'ai besoin de vous.
Elle lui fait de nouveau face.
Je veux que vous me kidnappiez.
Pardon ?
Je veux que vous me kidnappiez. Il faut que je disparaisse. Que j'échappe à mon mari. Vous pouvez pas imaginer l'homme qu'il est.
Le présent. À la lumière des phares de sa voiture, Max creuse la terre avec une pelle. Il retourne à sa voiture. Il fane le corps jusqu'au trou. Il jette la pelle de l'autre côté du trou, puis avec précaution, fait rouler le corps. Il va récupérer la pelle. Il jette des pelletées de terre dans le trou. Il regarde autour de lui. Antoine et les policiers.
On aimerait rendre cette affaire publique. Une femme ne peut pas disparaître en pleine journée sans que personne ne s'en aperçoive.
À moins qu'elle ne l'ait décidé.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'elle pouvait le connaître.
C'est ridicule.
Pourquoi?
Je sais pas, ça me paraît impossible. Vous pouvez nous dire quel genre de femme c'était? J'apprécierais que vous ne parliez pas de ma femme au passé.
Nous cherchons simplement à comprendre comment votre femme pourrait réagir en situation de prise d'otage.
Je pense que ma femme est terrifiée. Je crois que chaque seconde qu'elle passe avec celui qui a fait ça est un enfer. Et qu'en ce moment, elle se demande pourquoi la police et son mari l'ont toujours pas trouvé.
Nous allons interroger ses clients qui ont un casier judiciaire et qui sont en difficulté avec votre banque. Est-ce que certains de ces noms vous disent quelque chose?
Il lui présente une liste. Antoine la regarde à peine.
Je dirige cette banque. Je ne m'occupe pas de ces gens-là.
Au garage. Max va à la porte.
Qu'est-ce que tu fous? Ça fait 5 minutes qu'on frappe.
Je bricolais, je vous ai pas entendu. Désolé.
Nina entre avec son fils.
Hein?
Le petit garçon se penche sur un moteur.
Qu'est-ce que tu fais là?
T'as oublié? Max, on est mercredi. Putain, c'est pas...
Merde, attends, non, j'ai une galère aujourd'hui. Tu peux pas garder, je passe le...
Max, non. Viens, viens m'embrasser, mon chat.
Elle sort. Le petit s'assoit sur la moto.
Attends, fais gaffe, elle est pas stable! Tu vas te casser la gueule!
Il rejoint son fils tout en jetant des coups d'œil à la porte.
Quand est-ce que tu l'auras fini?
Je sais pas, il manque des pièces, j'arrive pas à les trouver.
Maman dit que tu la finiras jamais.
Ouais? Elle y connaît quoi en moto, ta mère?
Avec maman, vous avez été où avec cette moto?
Tu le sais très bien.
C'était où déjà?
Andalousie.
T'avais quel âge à l'époque?
Je sais pas.
Dehors, sous un ciel gris, la scène apparaît à hauteur du Louvre et du Pont des Arts. Assis à son bureau, Antoine est perdu dans ses pensées. Deux rides verticales marquent son front soucieux. Il se lève et sort de son bureau. Il rejoint son assistante.
Sarah, je vais y aller, je m'en sors pas bien.
Je comprends. J'annule votre rendez-vous de 17h et le conférence call de 18h30. J'appelle votre chauffeur.
Non, non, je vais rentrer seul, j'ai besoin de marcher.
Très bien.
Il ouvre la porte vitrée du palier et s'engage dans les escaliers. Max marche avec son fils dans la rue. Il aperçoit avec inquiétude le couple de policiers dans une voiture à l'arrêt. Il observe l'entrée de la banque BVL, située sur le trottoir d'en face, puis prend son fils par le bras et accélère le pas.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Il passe devant la banque.
On se balade.
Antoine arrive au bas des escaliers de service et sort de la BVL par une petite rue adjacente. Max et son fils débouchent à l'angle de la rue. Ils le suivent. Peu après, Antoine est debout dans une rame de métro. Max est assis avec son fils à quelques mètres. Antoine consulte sa montre. Max ne le quitte pas des yeux. Le petit garçon, perdu dans ses pensées, ne s'aperçoit de rien. Dehors, la nuit est tombée. Antoine descend une rue pavée où s'alignent dans un angle quelques bistrots. Il est toujours suivi par Max et son fils. Il bifurque et s'engage dans les escaliers d'une voie privée. Max s'immobilise et le suit un instant du regard. Il se tourne vers son fils.
Attends-moi là.
Tu vas où ?
Donc tu restes ici et tu m'attends. Hein ? Tu bouges pas.
Oui.
Max grimpe les escaliers. Le petit garçon le suit des yeux. Antoine atteint le haut des marches et s'avance vers une grille noire. Il entre. Max arrive en haut des escaliers. Antoine traverse un jardin et s'arrête devant la porte vitrée d'une belle demeure en pierre. Max l'observe à travers la grille. Dissimulé par la pénombre, une personne ouvre la porte à Antoine. Max lève les yeux sur les hautes grilles surmontées de barreaux en pointe et rebrousse chemin. Il s'aperçoit que son fils n'est plus en bas de l'escalier. Il balaie la rue du regard.
Ellie ! Monsieur, vous n'avez pas vu un gamin ?
Ah non, pas du tout, non.
Merde ! Vous n'avez pas vu un gamin ?
Ellie sort d'une boutique.
J'allais m'attendre !
C'est bon, j'étais là.
Merde !
Il le pousse sans ménagement. Dans un appartement, Nina le rouvre.
Salut.
Ellie se serre contre sa mère.
Donc, qu'est-ce que t'as, toi ? Qu'est-ce qu'il a ?
Je lui ai crié dessus.
Pourquoi ?
J'avais une course à faire, je lui ai demandé de m'attendre.
Tu l'as laissé tout seul ?
Ça va, il est là, il va bien.
T'as mangé ?
Ouais.
Nina lui fait un petit sourire.
Je vais peut-être partir pendant un moment.
Son sourire s'efface.
J'ai un pote qui a monté un business en Thaïlande. Il cherche des Français.
Elle prépare le repas.
Et le garage ?
Je vais le vendre. De toute façon, il ne vaut plus rien.
Elle s'assoit et sort une cigarette.
Et t'en as parlé à Ellie ? Ou tu me laisses lui annoncer ?
Ellie m'a dit que tu voyais quelqu'un.
Max, c'est fini entre nous.
Ouais, je sais.
Et c'est un mec bien.
Max acquiesce légèrement. Appuyé au comptoir de la cuisine, il se redresse.
Bye.
Devant son garage, Max nettoie sa voiture au jet. Le couple de policiers se gare derrière sa voiture et descend.
Monsieur Lopez, brigade criminelle, on aimerait bien vous poser quelques questions.
Bonjour. Vous venez d'enterrer quelque chose ?
Non, j'ai dépanné un véhicule. Le mec s'était embourbé en forêt.
Ok.
Je veux savoir ce qui se passe.
Simple enquête de routine.
Ils le suivent dans le garage.
Dites-moi, vous avez des soucis dernièrement avec votre banque?
Il range du matériel.
Ouais, je suis un peu en retard sur les échéances, c'est tout.
Ça dit que c'est un peu plus sérieux que ça.
J'ai pris un prêt hypothécaire.
Ouais, on dirait que vous avez un peu de mal à rembourser. Ça doit être dur de savoir que vous risquez de perdre votre maison. Vous avez des gosses?
Ouais, hein.
Vous êtes très en colère contre la banque, non?
Il allume une cigarette.
Ouais, c'est des connards. Mais bon, vous connaissez des banques où c'est différent?
Vous êtes à votre compte?
Ouais. Ça fait plusieurs années, ouais.
Et c'était avant la prison ou après?
Après. Mais vous le savez déjà, non? Je peux savoir pourquoi vous vous intéressez à mes problèmes financiers? Vous croyez que je vais faire sauter ma banque ou quoi?
C'est le cas?
Pas pour 78 000 euros, non.
Et Antoine Doriot, ça vous dit quelque chose?
Non.
C'est l'homme qui veut saisir votre maison. Sa femme a été enlevée mardi dernier.
Ouais. Et? Qu'est-ce que je vais voir là-dedans?
Vous pouvez nous dire ce que vous avez fait ce jour-là?
Je suis resté ici à travailler sur ma moto. Je suis en train de la retaper. Puis après, je suis allé chercher mon gosse à l'école. Et je l'ai emmené là où travaille sa mère.
Vous vous souvenez de l'heure qu'il était?
4h30.
C'est ok si on vérifie ça avec votre ex-épouse?
Ouais.
Comme on vous l'a dit, monsieur Lopez, c'est juste une enquête de routine. Donc si votre histoire tient la route, on ne vous embêtera plus.
Ok.
Au revoir, monsieur. Bonne journée.
Au revoir, monsieur.
À l'extérieur.
Je le sens pas, lui.
Max s'approche de la porte et les observe.
Il organise un enlèvement et ensuite il va chercher son gosse à l'école.
Le policier hausse les sourcils.
Bah, on voit quelqu'un interroger sa femme.
Max déambule dans son garage. Dans la soirée, accoudé devant une bière au comptoir d'un bistrot, il est perdu dans ses pensées. Il boit quelques gorgées. Une télé suspendue derrière lui est allumée.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent au menu de cette demi-heure. Une question, la France est-elle réformable? On va en parler avec nos invités dans le monde décryptage. Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité avec cette disparition inquiétante à Paris, celle d'Iris Doriot, 30 ans. La femme du banquier d'affaires aurait été kidnappée selon la police alors qu'elle sortait d'un restaurant dans le 3e arrondissement de la capitale. Si vous avez la moindre information, un numéro vert est à votre disposition. C'est le 0840 115 115.
Une photo d'Iris Doriot s'affiche à l'écran. Ce n'est pas la femme que connaît Max. Dans la forêt, Max creuse frénétiquement la terre. Il s'agenouille sur le sol trempé et creuse avec les mains. Il atteint la dépouille et défait la couverture. La défunte est la femme de la photo. Iris Doriot ressemble beaucoup à la fausse Iris qu'il a connue. De longs cheveux bruns encadrent son visage juvénile au trait fin. Max se relève et la contemple avec effroi. Il reste pétrifié devant le corps. Au matin, les toits de Paris apparaissent sous un ciel gris. Antoine, en pardessus sombre et costume cravate, grimpe les escaliers de la BVL.
Antoine ?
L'homme, la quarantaine, le rattrape sur le palier de l'étage.
Antoine ? T'as des nouvelles pour Iris ?
Non.
On est tous avec toi. C'est horrible ce que tu vis.
La fausse Iris est sur le palier.
Si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, hein ?
Merci.
Antoine, défait, suit la jeune femme sur la coursive de l'étage. Il la rejoint dans un coin, à l'écart du va-et-vient des employés.
Qu'est-ce que tu fais là? Faut que tu partes, c'est trop dangereux.
Et s'il va voir les flics, qui leur raconte tout?
Il ira nulle part, il est coincé. Faut pas que tu craques, faut que tu me fasses confiance.
Non, mais j'en peux plus, moi. Dis-moi pas que tu me laisses. Faut
Il l'embrasse. Elle lui rend son baiser avec fièvre. Dehors, un bout de périphérique au trafic constant apparaît entre deux tours d'immeubles. Dans son garage, Max, assis, tête basse, est plongé dans ses pensées. Il se souvient. Il est avec la fausse Iris dans l'appartement. Devant un miroir, il lui attache sa robe dans le dos. Il lève la tête et croise le regard de la jeune femme dans la glace. Avec un soin provoquant, elle se met du rouge à lèvres, puis le dévisage tranquillement.
Vous devriez me frapper. Pour qu'il y ait des marques.
Elle se tourne vers lui.
Vous avez jamais frappé une femme ?
Croyez-moi, vous n'avez pas envie que je vous frappe.
Elle le défie du regard, attrape un objet sur une table et passe devant lui. Dans son garage, Max n'a pas bougé. Ellie et sa mère poussent la porte restée ouverte.
Max ?
Il ne réagit pas.
Max ?
Il tourne la tête et se lève de son lit. Il s'approche de la rambarde de la mezzanine. Nina lui fait un petit sourire. Max regarde son fils.
Va voir, j'ai avancé sur la BM.
Il sourit et descend. Il s'approche de la jeune femme.
Il y a des flics qui sont venus chez moi. Ils voulaient savoir ce que t'as fait mardi.
Max va prendre une cigarette.
Qu'est-ce que tu leur as dit ?
La vérité. Je leur ai dit que t'étais allé chercher Ellie. Ils m'ont demandé si t'étais en retard. Qu'est-ce que tu voulais que je dise ?
Il faut que tu me fasses confiance.
Faut que j'aille au boulot. Il peut rester avec toi ? Je passe le chercher à la fin du service.
Non. Je vais pas le garder. Il est pas en sécurité ici.
Pourquoi ? Ellie, allez, on s'en va.
Mais maman !
On s'en va, j'ai dit.
Ellie descend de la moto.
Va m'attendre dans la voiture.
Écoute ta mère.
Je veux plus que tu le vois. T'as compris ?
Elle s'en va. Max déambule à pas lents. Il s'immobilise devant sa moto, le regard fixe. Il pose le pied sur la moto, puis brusquement la fait basculer. Plus tard, en veste et chemise, Max est posté dans le hall de la banque. Employés et clients vont et viennent. Antoine surgit en haut des escaliers. Il ralentit le pas en découvrant Max. Antoine fait demi-tour. Max le suit des yeux, puis quitte les lieux. Antoine émerge par la sortie de service. Max lui emboîte le pas. Antoine remonte une avenue, Max le suit depuis le trottoir opposé. Antoine traverse une rue et s'engouffre dans une bouche de métro. À quelques mètres de distance, Max poursuit sa filature. Antoine arrive sur le quai. Il monte dans la rame. Max Max grimpe par une autre porte dans le même wagon. Se déplace et se tient à une barre, mais tourne obstinément le dos à Max. Max s'approche encore. S'immobilise à côté d'Antoine. Il pose les yeux sur lui. Antoine regarde ailleurs. Max baisse la tête. Il regarde de nouveau Antoine qui reste impassible. Antoine descend in extremis. Derrière la vitre, Max, furieux, suit Antoine des yeux jusqu'à ce que la rame disparaisse dans le tunnel. La mâchoire serrée, Max baisse les yeux. La nuit est tombée. Max monte l'escalier de la voie privée. Les lieux sont déserts. Il s'approche de la grille et tente d'ouvrir la porte. Il regarde par les interstices de la grille. Une soirée a lieu. Des invités sont assis dans le jardin. Max s'écarte et lève les yeux. Il escalade la grille. Il passe entre les barreaux pointus et descend dans le jardin. Il s'approche dans la pénombre. Il contourne le groupe d'invités et longe la façade de la maison. Il grimpe les marches du perron. À l'intérieur, des femmes en dessous noirs masquées de cuir tournent sur elles-mêmes, le poignet noué à une corde suspendue. Max entre dans une autre pièce. C'est une salle de restaurant. La plupart des femmes y évoluent en tenue légère. Une jeune femme brune en boa et body noir passe devant lui. Max la suit. Il descend un escalier faiblement éclairé. Au centre de la pièce, une jeune femme s'exhibe en dessous noir. Le poignet attaché à une corde, le visage masqué, elle tombe sur elle-même. Max traverse la pièce à l'éclairage tamisé. Il passe entre des couples qui s'embrassent. D'autres hommes en costume regardent ou caressent des femmes dénudées. Max fixe la danseuse au centre de la pièce. Cheveux noués en queue de cheval, silhouette fine, elle évoque la fausse Iris. Un masque de cuir dissimule son visage. Le regard de Max est attiré par une autre jeune femme masquée. Elle aussi ressemble à Iris. Elle danse autour d'un homme et lui caresse le visage. Max entre dans une autre pièce. Une jeune femme, dont la silhouette est semblable à celle des deux autres, est assise sur un comptoir entourée de trois hommes. Elle piétine le dos d'un homme au sol. Max s'approche. La jeune femme s'est allongée sur le bar et soulève ses hanches de manière suggestive. Elle n'est pas masquée. Max reconnaît la fausse Iris. La jeune femme se lève et se dirige vers l'escalier. Clients, hommes et femmes, se groupent pour la regarder. La fausse Iris en bottes de cuir retire son soutien-gorge noir tout en montant les marches. Elle se tourne brièvement et sourit à son public, puis d'un pas lascif disparaît au tournant de l'escalier. Max ne l'a pas quitté des yeux. Iris rejoint des jeunes femmes dans une loge. Les yeux très maquillés, elle tire ses cheveux en arrière et les noue en queue de cheval. Elle s'allume une cigarette. Ses collègues se maquillent et se coiffent à côté d'elle, devant un grand miroir. Une femme brune, la quarantaine, entre.
Claudia.
Iris, Claudia, lève la tête.
Claudia, c'était parfait. Très bien.
Maud, dépêche-toi. Allez, les filles. Je vais la prochaine. Allez.
Claudia se souvient. Dans l'appartement, elle est attachée à la chaise. Des rideaux à moitié tirés laissent entrer la lumière du jour. Max traverse l'entrée et sort. Elle défait ses liens avec facilité. Après avoir libéré ses bras, elle détache ses chevilles. Elle se lève et traverse l'entrée. Dans une chambre, la dépouille d'Iris gît au sol. Claudia entre et contemple le corps. Elle s'avance et saisit Iris par les chevilles. Elle traîne le cadavre dans le couloir. Dans la loge, seule au milieu des autres, Claudia demeure immobile, rivée à son passé. Dans une chambre, elle soulève Iris. Elle la hisse sur le lit. Elle se retrouve encerclée par les bras levés d'Iris. Elle tente de se dégager, puis submergée par l'effroi, s'immobilise. La tête du cadavre repose entre ses jambes.
Non.
Elle retire une bague et la passe au doigt d'Iris. Dans la journée, Antoine retrouve les policiers à la BVL.
Excusez-moi, je suis en retard. Je vous en prie.
Il leur ouvre la porte de son bureau.
Asseyez-vous.
Il pose sa sacoche et retire son manteau. Les deux policiers ont pris place devant son bureau.
Nous avons parlé au psychiatre de votre femme.
Vous saviez que votre femme suivait une thérapie?
Oui.
Pourquoi vous nous l'avez caché?
J'y ai pas pensé.
Il nous a parlé de ses séances. Elle était très malheureuse.
Je crois qu'elle a eu une enfance difficile.
Vous n'êtes pas très proche de la belle famille?
Non. Elle n'a plus qu'un frère, elle ne se parle plus depuis des années.
Vous ne voulez pas d'enfant, monsieur Doriot?
Si, enfin, pas pour l'instant, pourquoi?
C'est à vous de nous le dire.
Je travaille énormément et ma femme est encore jeune, elle préfère se consacrer à son métier.
Un photographe, c'est ça, hein?
Absolument. Elle a beaucoup de talent.
Vous avez une maîtresse, monsieur Doriot?
Non.
Si on vous pose la question, monsieur Doriot, c'est que votre épouse a évoqué avec lui des problèmes d'ordre sexuel. Son manque de libido, ce genre de choses, vous comprenez?
Et alors?
Elle a également évoqué avec son psychiatre certaines pratiques.
Fétichiste.
Vous n'avez pas le droit.
On a tous les droits. On est en train d'enquêter sur la disparition de votre épouse.
Et?
Et vous êtes suspect. Vous êtes suspect depuis que votre épouse a disparu, les époux le sont toujours.
Très bien. Dans ce cas-là, je vais demander de partir, je vais appeler mon avocat.
Vous aimez bien prendre des fessées, alors? Vous savez, moi, quand je suis une queue, j'aime bien qu'on me foute un doigt dans le cul. Et mon collègue, là, ce qu'il aime, c'est qu'on lui torde les couilles quand il jouit. Vous voyez, on n'a pas de problème avec ça. On n'est pas là pour vous juger, d'accord? Alors?
Antoine se renfonce dans son fauteuil.
Oui, j'aime bien ça.
Et votre femme?
Elle refuse.
Ah, alors si votre femme refuse, vous faites comment?
Je paye des filles.
Des prostituées?
Oui, des prostituées. Des putes. 2500 euros, elles viennent avec leur matériel. Vous voulez savoir quoi d'autre? Quelqu'un a enlevé ma femme et vous me parlez de vos doigts dans le cul, des couilles de votre collègue? Pourquoi vous cherchez pas plutôt celui qui a fait ça?
On va le trouver, monsieur Dorion. Ne vous inquiétez pas.
Penchée au-dessus du bureau d'Antoine, la policière se redresse et se dirige vers la porte.
Au revoir, monsieur.
Le policier se lève. Antoine l'essuie les yeux. Dans les escaliers, les policiers.
Qu'est-ce que t'en penses?
Qui nous prend pour des cons.
Tu crois que c'est lui?
Je sais pas, j'en sais rien.
Mais dis-moi, comment tu sais que j'aime qu'on me torde les couilles?
Bah, je sais pas, tous les mecs aiment ça, je me suis dit que t'étais pas différent.
Bah, si j'avais su. La prochaine fois, peut-être.
Elle sourit.
Va te faire foutre.
Dans son bureau, Antoine revoit le passé. Il est avec Claudia dans l'appartement. Vêtue d'un body de cuir noir, la jeune femme l'embrasse dans le cou. Elle passe derrière lui et l'attrape par les cheveux. Elle tire légèrement sa tête en arrière, puis glisse une main sur sa nuque. Antoine se tient debout dans le salon de l'appartement de Claudia. Les rideaux de velours filtrent la lumière du jour. La jeune femme lui fait face et le dévisage froidement, les mains dans le dos.
Enlève ta chemise.
Il s'exécute. Ses bras sont tatoués jusqu'au coude et son dos est marbré de traces de coups de fouet. Il se tourne. Claudia contemple son dos, puis promène lentement sa main sur les traces de coups. Dans son bureau, Antoine, demeuré immobile, revient au présent. Au garage, sur la mezzanine, Max tire nerveusement sur sa cigarette en faisant les 100 pas. Il attrape son téléphone et en consulte l'écran.
Faut qu'on parle.
Le vieux foutre. On m'a tendu un piège.
J'aurais jamais imaginé que ça puisse être si facile.
Si c'était si facile, vous seriez pas en train de m'appeler.
Le champ de Mars. 10h, 8h. Je vous trouverai.
Au champ de Mars, la tour Eiffel se dresse sous un ciel lourd. Max, le visage fermé, patiente dans une allée. Antoine, main dans les poches de son pardessus, s'avance lentement vers lui. Max tourne la tête et le toise avec rage. Antoine s'arrête devant lui et détourne la tête.
Il va bientôt neiger. J'ai un domaine en Normandie, c'est rare qu'il neige là-bas, mais quand ça arrive, c'est magnifique.
Pourquoi moi?
Parce que je savais que vous le feriez. Seulement, je m'attendais pas à ce que vous sortiez le corps de l'appartement. J'espère que vous avez traité ma femme avec respect.
Je l'ai enterrée dans un trou. Et recouverte de terre.
Antoine le toise.
Il y a un algorithme que les banques anglaises utilisent pour vérifier la solvabilité de leurs clients. On n'a pas le droit de l'utiliser en France, en théorie. Ça nous dit combien vous gagnez, combien vous dépensez, combien vous devez, pour quel parti politique vous votez, si vous votez. Ça nous dit même si vous avez un casier, ce qui est votre cas. On réunit toutes ces informations et on sait quel type de client vous êtes. Vous savez ce que vous êtes, Max? Un raté. Un raté qui est prêt à tout parce qu'il va tout perdre.
Qu'est-ce qui se passe? Les flics s'en rapprochent?
Peut-être. Mais j'ai de l'argent. J'ai de bons avocats. Vous avez quoi, vous? Je vous propose un marché. Vous endossez le meurtre de mon épouse et j'efface votre dette.
Qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir les flics et de leur dire la vérité?
Quelle vérité?
Max le saisit par le corps. Antoine a un léger sourire. Max le relâche. Antoine lui sourit.
C'est de l'argent que vous voulez, hein? Combien? 100 000? 150? 200? 200 000? Vous inquiétez pas, je me charge de tout.
Après lui avoir tapé sur l'épaule, Antoine s'éloigne. Max, le regard noir, ne bouge pas. Dans un bistrot, le policier commande un café au comptoir.
Merci.
Il l'apporte à la policière assise à une table. Il s'assied en face d'elle et boit quelques gorgées du sien.
On a que dalle. On a juste une femme kidnappée sans que personne s'en rende compte et son mari qui a un alibi parfait.
On a le garagiste aussi.
Parce qu'il a cambriolé des pavillons quand il avait 20 ans.
Parce que la banque s'apprête à saisir sa baraque.
Il sait même pas qui est Dorio. Franchement, t'imagines ce type kidnapper quelqu'un?
Ça va, il est pas tout blanc. Il a fait de la tôle.
Là, c'était un môme. Puis là, c'est juste un pauvre type surendetté.
Justement.
Elle regarde son téléphone.
C'est Dorio?
Elle se lève.
Oui, monsieur Dorio.
On peut se voir? Je sais plus où j'en suis, là.
Maintenant.
Je voudrais savoir comment avance l'enquête. Je vous attends, je suis chez moi.
Elle se tourne vers son collègue.
Il veut me voir?
Je te dépose.
Et tu restes, même.
Dans la soirée, Claudia sort de la maison de la voie privée. Elle descend l'escalier. Max surgit dans son dos et la saisit par les cheveux. Il la plaque contre une grille et la bâillonne avec sa main. Il la force à le regarder. Plus tard, il la pousse dans l'appartement et l'entraîne dans la chambre. Il la jette sur le lit. Elle se débat. Il plaque sa main sur sa bouche.
Tu vas te fermer ta gueule.
Chez Antoine, la policière contemple des photos encadrées. Un très beau portrait en noir et blanc de Claudia attire son attention. Dans sa voiture, le policier capte la conversation d'Antoine et de sa collègue.
Elle est morte, n'est-ce pas?
Rien ne le dit.
Vous savez, le jour de sa disparition, je me suis dit qu'elle avait décidé de me quitter.
Dans l'appartement.
Enfin.
Antoine s'approche de la policière, puis s'assoit dans un fauteuil.
Vous êtes marié?
Je crois pas aux vertus du mariage. Mais je suis en couple, ouais, depuis longtemps.
Ça vous arrive jamais de penser à d'autres hommes?
Si, ça m'arrive. Comme tout le monde.
Ça a déjà passé à l'acte?
Elle s'assoit en face de lui.
Vous êtes en train de me demander si j'ai déjà trompé mon mec? Ça m'est arrivé, ouais.
Il l'a su?
Ben non. Bien sûr que non.
Vous l'aimez toujours?
Oui. fait 12 ans, alors je suis pas amoureuse comme au premier jour, mais je suis très attachée.
Il se penche vers elle.
Est-ce que ça vous suffit ?
Il esquisse un sourire.
Non, ça vous suffit pas. Vous en voulez plus. On en veut tous plus. Alors on s'arrange comme on peut. C'est comme ça qu'on tient.
Monsieur Doriot, vous saviez que votre femme avait repris contact avec son frère ? Ils se parlaient régulièrement ?
J'étais pas au courant.
Elle s'est confiée à lui. Elle lui a dit qu'elle se sentait suivie.
Il se lève.
Par qui ?
Par une femme. Elle pensait qu'il s'agissait de votre maîtresse.
Elle se lève à son tour. Il sourit.
C'est très sérieux, monsieur Doriot. Je veux savoir qui est cette femme.
Est-ce que son frère a aussi mentionné qu'avant ça, il y en a eu d'autres ? Il y a eu un garagiste. Un type qui était venu chez nous réparer sa voiture. Et qu'elle a accusé ensuite de la suivre dans tout Paris.
Non.
Iris est quelqu'un de fragile. De paranoïaque. Il faut savoir qu'elle a des obsessions.
Vous vous souvenez du nom du garagiste ?
Je m'en suis pas préoccupé.
Elle acquiesce.
Bon. Merci, monsieur Doriot. Bonne soirée.
Il l'accompagne jusqu'à l'escalier.
Vous formez certainement un très joli couple avec votre compagnon. Mais grattez un peu la surface et regardez. Vous voyez, on est tous pareils.
Elle le dévisage froidement et s'en va. Dans la voiture, le policier a le regard sombre. Dans son salon, Antoine, resté devant l'escalier, se souvient. Claudia le fouette. Elle tourne autour de lui. Antoine est agenouillé. Des cordes enserrent son buste à ses épaules. Elle se replace derrière lui. Il bascule au sol. Il laisse aller sa tête en arrière et regarde Claudia éperdue. Ses poignets sont également attachés. Il ferme les yeux. Elle s'agenouille près de lui et pose son fouet. Elle lui caresse le cou et le visage, puis soulève sa tête et l'embrasse sur les lèvres. Antoine se rallonge. Elle caresse son cou, puis glisse les mains sur son torse et ses bras. Elle s'interrompt. Elle se relève. Antoine tourne les yeux vers l'entrée. Retour au présent, Antoine boit un verre et s'avance vers les baies vitrées ouvrant sur le balcon. Il contemple les immeubles éclairés de l'autre côté de la Seine et replonge dans son passé. Tout en se dirigeant vers la porte d'entrée, Claudia passe un peignoir transparent à motif noir. Iris passe devant elle. Claudia la suit des yeux. Iris traverse lentement l'entrée et jette son manteau sur une chaise. Claudia lui emboîte le pas. Iris s'approche de son mari, toujours recroquevillé au sol. Elle blêmit et s'agenouille devant lui. Il lève la tête. Il la laisse retomber. Iris attrape le fouet et se relève. Elle frappe Claudia. La jeune femme tombe. Iris se rue sur elle et lui enserre le cou. Antoine rouvre les yeux et rampe dans leur direction. Iris tape la tête de Claudia contre le sol. Claudia attrape une coupelle et la frappe à la tête. Iris s'effondre sur elle. Antoine est maintenant tout près d'elle. Claudia fait basculer Iris sur le sol. Elle est inerte. Tous deux la regardent sous le choc. Antoine se redresse et se penche vers Claudia. Il lui caresse le visage. Il l'embrasse. Il s'écarte doucement. Le présent. Dans le même appartement, assise sur le lit, Claudia a les bras levés, noués à une corde fixée au mur. Max, assis à quelques mètres, lui tourne le dos.
Au début, c'était un client. Un soir, il m'a demandé...
Au comptoir d'un bar, Antoine sourit à Claudia.
Et puis c'est rapidement devenu un régulier.
Max tire sur sa cigarette.
Il savait ce qu'il voulait. La plupart des hommes savent pas ce qu'ils veulent. Il m'a montré une photo d'elle.
Dans une rue le soir.
Il m'a dit que je ressemblais.
Iris et Antoine descendent d'une voiture avec chauffeur.
Il me disait à quel point elle était fragile et que c'est cette fragilité qu'il aimait.
Ils entrent dans une galerie d'art où a lieu un vernissage. Un homme vient à leur rencontre. Il serre la main d'Antoine et embrasse Iris.
Et puis ça allait plus loin. Il m'a demandé de les suivre, de les observer.
Iris glisse un mot à l'oreille d'Antoine et s'éloigne.
Je devais étudier la manière dont elle marchait, comment elle bougeait.
Claudia entre dans la galerie et suit Iris. Antoine lui jette un coup d'œil discret. Iris descend un escalier, talonné par Claudia, puis Antoine.
Au début, c'était un jeu. Mais j'y ai pris goût.
Ils entrent dans une salle. Une femme y est exposée nue. Elle est enveloppée de la tête à la taille dans une sorte de cloche inversée. Claudia la contemple. Antoine rejoint son épouse devant une toile abstraite et lui prend la main. Claudia les observe. Antoine sourit à Iris. Il tourne autour d'elle et échange un regard avec Claudia. Le présent dans l'appartement. Max s'est levé et considère Claudia. Il se frotte nerveusement les mains. Il fait quelques pas dans la pièce en fumant.
Tu vois, Max, toi et moi, on est pareil. On s'est fait baisser pour de l'argent.
Il écrase sa cigarette, s'approche et la gifle. Il sort son téléphone et enclenche l'appareil photo.
Regarde l'appareil.
Les yeux pleins de larmes, Claudia obéit. Max s'éloigne et envoie la photo. Dehors.
Pour la perquisition de chez Lopez. On va le taper demain matin.
Les deux policiers sont sur les quais.
T'as eu les collègues de Normandie pour la maison de Dorio ?
Rien à signaler. Ça bouge pas.
Il lui caresse les cheveux.
Ça va ?
Rappelle-les. Dis-leur de nous prévenir s'il y a du mouvement.
Main dans les poches de son blouson, Max marche non loin des quais. Dans la journée, Antoine monte les escaliers de la BVL. Max le croise et lui donne une tape sur le torse. Antoine se tourne vers lui. Max brandit son téléphone. Antoine regarde le sien et y découvre la photo de Claudia. Il décroche.
Je veux 500 000 euros en billets usagés. On se retrouve au champ de Mars. Si je vois les flics, je la tue. T'as raison, j'ai un raté. J'ai plus rien à perdre.
Max quitte la banque. Antoine, sidéré, regarde son téléphone, puis s'éloigne dans les escaliers. Devant le garage, les deux policiers sont avec un groupe d'intervention du GIPN.
Capitaine, le groupe est prêt, on va pas tarder.
La policière acquiesce. Ils enfoncent la porte du garage.
Y a personne, capitaine.
Putain.
Paris apparaît sous un ciel uniformément gris. Max arrive au champ de Mars. Antoine l'attend au bout de l'allée, sa sacoche noire dans la main. Max s'immobilise devant lui et le fixe. Les deux hommes se défient du regard. Max lui prend la sacoche des mains. Il se détourne et s'en va. À la tombée de la nuit, Antoine, appuyé contre la baie vitrée de son salon, contemple les lumières du soir. Il se redresse et sort son téléphone de la poche de sa veste.
Allô ?
Elle est dans l'appartement.
Tu t'en tireras pas comme ça.
C'est déjà fait.
Je veux entendre sa voix. Il t'a touché ? Est-ce qu'il t'a touché ?
Oui, il m'a touché.
Antoine regarde le téléphone et abaisse le bras. Dans l'appartement, Max transvase l'argent dans un sac.
Faut que j'aille aux toilettes. Faut que j'aille aux toilettes.
Il lève les yeux sur elle. Il détache ses poignets de la corde et l'emmène. Ils entrent dans la salle de bain. Il la pousse devant les toilettes. Elle reste debout, puis tourne la tête vers lui. Il se poste à l'entrée de la salle de bain sans la quitter des yeux. Tout en le défiant du regard, elle baisse ses collants. « Il détourne les yeux, puis la regarde à nouveau. Des mèches de cheveux collées au visage, blessées à la lèvre, Claudia s'assoit sur la cuvette. Il se fixe. Dehors, des lumières illuminent les fenêtres des immeubles. Des voitures circulent sur un pont. Max traverse une avenue proche en tenant Claudia par le bras. Ils entrent dans un hôtel. Ils empruntent un escalator. Antoine arrive sur le palier de l'appartement de Claudia. La porte est entrouverte. Il entre. À l'hôtel, Max et Claudia traversent un hall. Dans l'appartement, Antoine progresse lentement jusqu'à la chambre. Il s'immobilise sur le seuil. Il s'approche très lentement du lit, en grimaçant de souffrance. Il se penche. Iris repose sur le lit. Il la contemple en pleurant. À l'hôtel, Max et Claudia sortent d'un ascenseur. Ils s'engagent dans un couloir désert. Ils entrent dans une chambre. Max tient toujours Claudia par le bras. Il la pousse au milieu de la pièce, elle examine les lieux, il jette un coup d'œil à la fenêtre et pose son sac.
Combien de temps on va rester ici ?
Tant qu'il faudra.
Je vais me détacher.
Il la dévisage. Il s'approche, lui retire son manteau des bras et lui dénoue les poignets. Son visage est très près du sien. Il lève les yeux et passe une main sur sa joue. Il l'embrasse longuement. Elle passe les mains dans son dos et l'étreint. Il se regarde. Nus sur le lit, ils font l'amour. Claudia est assise sur lui. Il se redresse et embrasse ses seins. Il la fait basculer et se met sur elle. Il la regarde. Claudia a fermé les yeux. La fenêtre de la chambre offre un panoramique du quartier traversé par la Seine. 1000 lumières éclairent la nuit parisienne, dont celle clignotante de la maison de la radio. À la campagne, une maison se dresse au bout d'une allée arborée. Antoine franchit en voiture les grilles de la propriété. Il traîne la dépouille de son épouse dans le bois. Il la pose près d'un trou au pied d'un arbre. Il se redresse et regarde en direction de l'allée. Une voiture, suivie de plusieurs véhicules de police, se gare devant la maison. Antoine tient un revolver. Il baisse les yeux sur le corps de sa femme et le fixe. Il pointe son arme sur sa gorge. Les policiers descendent et aperçoivent le coffre ouvert de la voiture d'Antoine.
Putain !
Oh, voilà, voilà !
Les capitaines et leur équipe se précipitent, armes au poing. Tous s'immobilisent autour du trou. Antoine, inerte, y tient Iris dans ses bras. La policière demeure immobile, le regard fixé sur le couple. Paris, au matin. Le ciel plombe la ville de sa grisaille. Dans la chambre de l'hôtel, Claudia dort. Derrière le lit, une large fenêtre offre une vue directe sur la maison ronde de la radio. Max, son blouson sur le dos, contemple le paysage urbain par une autre fenêtre. Claudia ouvre les yeux et regarde Max. Elle s'assoit. Max se retourne.
On fait quoi maintenant ?
Comme on l'a dit.
Elle le suit des yeux. Il attrape un sac sur une table basse. Des liasses de billets restent sur la table. Max sort. Une larme coule sur la joue de Claudia. Elle assimile les événements, bouche entrouverte. Dehors, la Seine et la ville apparaissent entre deux tours d'immeubles. Claudia longe les quais, le paquet d'argent serré contre sa poitrine. L'image devient noire. Romain Duris, Max. Charlotte Lebon, Claudia. Jalil Lesper, Antoine. Camille Cotin, la policière. Adèle Benchérif, le policier. Sophie Berbeck, Nina, l'ex-femme de Max. Et Hélène Barbry, Iris. Musique originale, A Winged Victory for the Sullen. Produit par Vassim Béji, un film de Jalil Esper. Une audiodescription écrite par Florence Bott, dite par Laurent Jacquet, enregistrée au studio VDM à Issy-les-Moulineaux. Sortent d'un fond blanc et deviennent rouges, Netflix.